Bienvenue sur Radio 162. Tout de suite, c'est l'émission Mémoire vive, réalisée par les résidents de la Lorientine à Lorient. Bonne écoute.
Bonjour ou bonsoir, tout dépend finalement de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, puisqu'elle est podcastée, c'est-à-dire mise à disposition sur Internet après sa diffusion. Bienvenue donc sur Radio 162, la radio curieuse. Je suis Pierrick et encore une fois, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour notre deuxième émission de Mémoire vive. Une fois de plus, nous allons traverser le temps avec nos invités. Dans ce nouvel épisode, nous allons revenir, un peu comme nous l'avions fait d'ailleurs la fois dernière, sur les effets marquants de l'évolution du temps qui passe sur notre quotidien. Mes compagnons du jour ont connu un monde sans Internet, vous confirmez, sans mobile, sans Doctolib, sans poubelle jaune. Ce sont les témoins privilégiés d'une époque où on lavait son linge au lavoir, où on jouait au ballon avec des boîtes de conserve. On en parlera. On évoquera un temps où les salles de classe sentaient l'encre, la craie, le bois des pupitres.
Oui.
Et puis, comme on est joueur aussi à tout âge, j'ai préparé pour nos invités un petit quiz en fin d'émission qu'on n'avait pas encore fait. C'est une petite surprise, un jeu de questions-réponses. Oui, c'est vrai, quiz, c'est pas très français. Vous avez fait le choix d'écouter Radio 162, c'est le bon choix. Mémoire vive, c'est maintenant et c'est sur Radio 162. Permettez-moi donc d'accueillir pour démarrer cette émission celles et ceux qui vont nous accompagner pendant cette heure. À ma droite, j'ai André. Bonjour André.
Bonjour.
C'est la première fois qu'on entend votre voix dans cette émission. Mm-hmm. Ouais. Alors, parlez-moi un petit peu de vous, André. Vous êtes originaire, m'a-t-on dit, de Locmiquélic.
Tout à fait.
Comment on appelle les habitants de Locmiquélic ?
Les Minaouettes, tout simplement.
Les Minaouettes.
Les gens, j'entends souvent, ils parlent de Minaouettes, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils demandent d'où ça vient,
les
Minaouettes. C'est un outil de travail que les ouvriers de marine travaillaient à bord des bateaux, tout simplement.
D'accord, et ça servait à faire quoi ?
Tailler le bois.
Ah, ça taille, c'est d'accord, c'était pour les charpentiers marins.
Les charpentiers marines.
D'accord.
Tout à fait.
Bon. Comment était la vie heureuse à Locmiquélic ? Quels souvenirs vous gardez de cette...
Moi, je garde de bons souvenirs, bien sûr, parce que bon, j'ai vécu quand même pas mal d'années à Locmiquélic. On avait, à l'époque, j'ai connu donc l'ancien maire qui est décédé, hélas, M. Lévisage, qui lui faisait beaucoup de choses. Et dont c'est un ancien ouvrier de l'arsenal. Et il s'occupait beaucoup de gens. Et par exemple, hier, en diffusion, vous parliez de la fête de Langoustine. La fête de Langoustine a été organisée par lui-même, avant la guerre.
C'était le fondateur de la fête.
Avant la guerre. Ah oui.
Et ensuite, après la guerre, bien sûr.
Oui.
Ça continue de plus belle.
D'accord.
Ah oui.
Voilà. Et à l'époque, moi j'étais jeune, j'avais 7-8 ans. Nous faisions des chars, bien sûr. Toute la commune participait. Il y avait des fois 15-17 chars. C'est formidable, quoi.
Ah oui.
Parce qu'il faut compter quand même entre un mois et un mois et demi.
Pour se préparer,
Pour préparer un char.
Sûrement.
Alors, le char lui-même, ça se compose d'une remorque, bien sûr. Un tracteur fait l'affaire aussi, un camion.
Oui.
Et ensuite, il faut le décorer.
Avec des lampes. Oui.
Il faut améliorer la ville de Locmiquélic, bien sûr. Alors, donc, on fait des panneaux avec des fleurs.
Ah oui.
Avec des fleurs. Alors, donc, bien sûr, il y avait énormément de dames qui nous accompagnaient. Les enfants étaient là aussi, quelques hommes, pour faire des fleurs.
Oui.
Donc Manuel a fait je ne sais plus combien de milliers de fleurs. Alors on y allait pratiquement tous les soirs, quoi. Il fallait compter quand même un mois et demi pour avoir quelque chose de précis, de correct.
Voilà. Un sacré investissement au niveau du temps.
Ah, oui.
Est-ce qu'il y avait aussi l'élection de la reine ?
La reine
des langoustines ?
La reine, alors la reine, c'était, l'élection avait lieu bien avant, hein, parce que la fête de langoustine, c'est apparemment tous les ans, c'est en août.
Oui, c'est ça. Oui.
Et les jeunes dames, les jeunes filles,
oui.
hein, sont nommées en début d'année, quoi.
Oui,
février, par là, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc les volontaires, bien sûr, et il y avait un vote. Voilà.
Ouais.
Comme partout ça se fait. Hein.
Oui.
Voilà. Eh ben c'est une petite anecdote qui nous permet de pouvoir démarrer cette émission, parce qu'on va évidemment parler beaucoup de traditions, de choses qui ont parfois disparu. Mmh. Il se trouve que la fête des langoustines, elle existe encore.
Mmh.
Et alors, ce qui est assez formidable, si vous allez vous balader à Locmiquélic pendant le mois d'août, il y a du monde. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
Il y a du monde.
Voilà. Et il y a toujours les chars, il y a toujours les rennes.
Voilà.
Armel, alors tout à l'heure, je ne vais pas trahir un secret, mais tout à l'heure, quand je suis arrivé, alors vous n'étiez pas en train de faire un char, mais vous étiez en train de préparer une flamme.
Oui.
Alors vous n'êtes pas incendiaire, on va expliquer. Vous vous préparez pour les Jeux Olympiques, c'est ça Armel ?
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça. La flamme va passer dans les établissements de Vive 3. De la région.
D'accord.
Et
vous avez la responsabilité de la fabriquer.
Nous sommes deux. Christelle le fait avec moi.
Voilà.
Christelle le fait avec moi. Et c'est elle qui est à l'origine, en fait. Hein.
Bon.
Ouais.
Si tu as besoin d'aide, je suis là.
Bon, ben voilà, c'est bien. Puis il a l'habitude hein, avec les chars. Ouais. J'imagine qu'on doit être, être manuel. Hein.
À la fête des langoustines, c'était pas des chars de langoustines ?
Non, on appelle ça la fête. Ah oui, je voulais conclure justement. Donc le soir de la fête des langoustines, évidemment, avec la reine et ses demoiselles d'honneur, il y avait un bal. Voilà. Et avant, il y avait le fameux repas. Avec des langoustines.
Bah oui, évidemment. C'est vrai que c'était bien de terminer l'histoire.
Merci.
Eh ben, on se demandait pourquoi la fête des langoustines.
Oui.
C'est vrai. Mireille, comment ça va ?
Ça va.
Oui ? Alors, on n'entend pas bien Mireille, mais on l'entendra mieux tout à l'heure. Donc, Mireille qui est ici avec nous. On a Maria.
Oui,
tout va bien, Maria ? Contente de revenir ? Vous avez entendu l'émission hier. Alors je dis hier parce qu'elle a été diffusée. Non, vous ne l'avez pas entendue.
Non.
Vous en aurez deux.
C'est ma fille qui me l'a
retransmis.
Oui.
Ouais. D'accord. Elle en a dit du bien.
L'autre fois, c'était mon beau-fils et une autre fille. Alors aujourd'hui, c'est une autre.
Eh ben voilà. Vous en avez combien ?
J'en ai trois enfants.
Non, c'est bien. Donc vous allez en pouvoir en ramener une autre encore la prochaine fois ?
Un garçon. Oui.
Maria, très bien, merci d'être avec nous. Huguette, ça va bien depuis la dernière fois ?
Oui, monsieur.
Oui, vous avez entendu l'émission ?
Oui.
Ouais. J'ai eu plein de compliments vous concernant. Avec,
ah bon ?
Oui, il y avait des équipes de la radio, entre autres, qui avaient bien aimé vos interventions. Bon, ils ont bien aimé toutes les interventions, mais les vôtres en particulier. Donc, on m'a chargé de vous le dire, alors je vous le dis.
Merci, monsieur. C'est très aimable à vous.
Bravo.
Et puis Marie-Lou, qui est avec nous aussi. Alors, on l'avait dit, on va parler des technologies. On avait commencé à en parler un petit peu la dernière fois.
Ouais.
Ce qui avait beaucoup changé. Aujourd'hui, j'aimerais quand même... On va poursuivre, puisque c'était votre choix. On va rappeler quand même que cette émission, c'est vous qui l'a préparée. Vous avez choisi de parler à nouveau des technologies, mais peut-être de manière peut-être un petit peu différente, notamment en revenant sur les conditions de vie, par exemple, d'autrefois. Tout à l'heure, j'évoquais, alors ça n'a rien à voir avec les technologies, mais on évoquait les boîtes de conserve dans lesquelles on tapait
exact.
Pour jouer au foot, Vous, c'est André ?
C'était pas pour jouer au foot. Hein.
Pas que jouer au foot ?
Les petites boîtes de concerts
Qu'est-ce qu'on faisait avec?
Jouer au palais.
La marelle.
Au palais?
La marraine, ben oui.
Alors expliquez-moi comment on joue au palais avec des boîtes de conserve.
Je ne sais
alors...
pas, mais.
C'était des boîtes. C'était le fond du bol.
Ouais.
Il est rond, bien sûr.
Oui.
Hein. C'est avec ça que surtout les filles jouaient au palais.
D'accord.
Au palais.
Non, nous jouions avec des boîtes de pastilles pulmol lesquelles on mettait un caillou.
Ouais. Ouais.
D'accord. Ok, pour le lester, pour qu'il puisse.
Pour qu'il n'aille pas trop vite.
Mireille, vous vous souvenez de jeux improvisés comme ça?
Moi, j'étais en campagne et c'était plutôt la marelle, mais avec des palais. Mais le genre de palais, je ne me rappelle pas ce qu'on avait exactement, mais des trucs plats.
Ouais. Vous sauriez aujourd'hui encore redessiner une marelle?
Oh oui.
Ouais.
Oui.
On explique pour les plus jeunes?
Eh bien, il devait y avoir une plaque en haut, après il devait y en avoir deux ou trois, une ou deux dans le milieu et deux ou trois après.
Ouais.
Quelque chose comme ça.
Et donc, il fallait faire attention parce qu'il y avait paradis.
C'est ça.
Le ciel était au fond.
Voilà.
Et c'était le but du jeu.
Oui.
Et dans mes souvenirs, parce que moi, c'est pareil, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la marelle. Hein. Je vais vous dire. quand on avait deux cailloux sur la marelle, il fallait sauter jusqu'au troisième.
Moi, je ne me rappelle plus. Hein.
Bon.
Moi, je me rappelle
plus. On va demander à nos auditeurs s'ils le savent. Ben, nous enverrons les règles du jeu de la marelle. Alors, c'est vrai que maintenant, avec Internet, on trouve tout.
Oui. Tout.
Ouais. J'ai vu dans les notes que vous m'aviez préparées qu'il était question notamment d'Internet, d'informatique plus précisément, et de l'orthographe.
Oui.
Aujourd'hui, on est capable de pouvoir écrire sans savoir écrire, j'allais dire, puisque l'ordinateur, il corrige. À votre place.
Les jeunes, on les critique parce qu'ils font beaucoup de fautes d'orthographe, mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils écrivent sur l'ordinateur.
Oui, mais s'ils corrigent l'ordinateur.
Mais l'ordinateur corrige, oui.
Ouais.
Alors, ce n'est pas difficile. Oui, mais ils font beaucoup de fautes dans les examens.
Ah, bah oui, parce qu'il n'y a pas l'ordinateur, forcément.
Non.
Ouais. Marie-Lou, vous êtes bonne en orthographe?
Très bonne.
Ouais. Ça vous. Quand vous voyez une faute? Votre réaction, c'est quoi? Ah, il y a une faute?
Oui. Même dans la presse, il y a des fautes.
Oui.
Il n'y a pas longtemps, dans Ouest France, je dis, dis donc, le journaliste ici.
Il y a Claude qui est venu nous rejoindre aussi, qui est venu autour de cette table qu'on avait entendue la dernière fois. Comment ça va, Claude?
Bien.
Hein?
Le tout-bip vient de passer.
Le tout-bip vient de passer, ça va? Donc il a dit que tout va bien pour Claude?
Ouais.
Bon, alors c'est parfait. Il y a pour l'émission. Vous allez vous partager le micro avec Huguette. On va juste le rapprocher. Ça va faire un peu de bruit, mais juste pour une petite seconde, voilà, pour pouvoir bien rapprocher le micro entre les deux. Vous m'entendez bien parce que vous n'avez pas de casque, Claude?
Oui, j'entends. Bon.
Oui, on était sur l'orthographe. Huguette, vous, l'orthographe, c'est quelque chose que ça compte?
Ah oui, ça compte, mais ça compte parce que je ne suis pas tellement douée en orthographe, moi.
Ah
moi,
oui.
C'était les mathématiques, ce n'était pas le français.
Ah.
Par contre, j'aime bien la rédaction. Ce n'était pas la même chose.
Mais vous avez la base des maths.
C'est ça.
Ça vient comme ça? Vous avez toujours aimé les maths?
Ah, toujours, oui.
Et donc, vous avez fait de la compta?
Si on veut.
Ou pas.
Oui,
si on veut,
parce que vous savez, les parents ne s'occupaient pas beaucoup de nous pour l'école et pour tout cela. Hein. Moi, je ne peux pas dire qu'on s'est beaucoup occupé de moi. Hein.
Et donc, les professeurs, l'instituteur, on va parler dans un instant, parce que j'aimerais bien qu'on revienne aussi là-dessus, parce que les classes, elles sont, c'est pas les mêmes. Enfin, on va en parler, parce que... Mais vous avez eu un professeur... Parce que moi, ça m'étonne toujours quand on me dit, moi, j'adore les maths.
Ah oui, moi aussi.
Il y en a que ça étonne, hein. D'aimer beaucoup les maths. Qui vous a donné ou qu'est-ce qui vous a donné envie d'aimer les maths?
Parce que j'étais douée naturellement, monsieur.
Ouais.
Voilà.
Oui.
La bosse, c'est ce qu'on appelle avoir la bosse des maths.
La bosse des maths.
Ouais.
Oui.
C'est ça. Maria, l'orthographe, ça compte?
Comment?
L'orthographe, ça compte? Vous y faites attention?
Moi, je suis partie à l'école. à 8 ans et je ne savais pas un mot de français. Alors là, ça a été dur. Et sorti à 14 ans, ça fait garder d'études.
Ouais.
Et après, travailler dans la ferme.
D'accord. Donc l'orthographe, pour l'instant. Hein, on a autre chose à penser quand on est dans la ferme, j'imagine.
Ben, je n'avais pas eu mon certificat d'études, bien sûr, puisque je n'avais pas travaillé, puisque j'étais tout le temps dans la ferme à travailler.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Hein? Alors, il y a votre fille qui est en train de vous souffler des réponses.
Le lendemain du certificat d'études, à la maison tout de suite, allez. Autour des vaches.
Ouais. Donc, comme on a des casques, on ne l'entend pas en fait du tout, votre fille. On voit ses lèvres qui bougent. On décrit, parce que la radio c'est très visuel, votre fille est à côté de vous. On l'entend, on la voit parler, mais par contre, je vais juste enlever un petit peu mon casque pour qu'on puisse entendre. Ah, mais par contre, vous ne supportez pas les fautes d'orthographe. Vous n'aimez pas les fautes d'orthographe.
Pas tellement, non.
Non. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où on quitte l'école, pas de certificat d'études, on va à la ferme, et aujourd'hui...
Et pas savoir un mot de français. Un mot de français à 8 ans en allant à l'école, on se faisait attraper encore à l'école, on se faisait punir parce qu'on parlait le breton.
On en a parlé
parce
déjà.
Parce qu'il fallait pas parler le breton. Mais entre nous, les copines... Les filles qui ne savaient pas le français, elles se réunissaient quand même dans un petit coin pour parler le breton. Madame, oui.
Les rebelles.
Les rebelles,
on parlait comment.
Comment vous pouvez. Oui, c'est ça.
Mireille, si vous aviez l'occasion, vous utiliseriez aujourd'hui un correcteur orthographique informatique.
En orthographe, oui, très bon, oui. Avant, oui. Ouais. Maintenant, ça commence à diminuer.
Ouais.
Oui. Mais avant, oui. L'orthographe, le calcul, tout ça, il y avait que les sciences, je n'aimais pas.
Les sciences.
Oui, ça que j'aimais pas.
J'aimerais qu'on parle juste un tout petit peu, puisqu'on est sur l'orthographe, on a parlé des mathématiques. Vous aviez aussi, dans la préparation de l'émission, parlé de l'école. Il faut imaginer que l'école que vous avez connue et l'école que mon garçon... Mon petit Baptiste connaît, ça a quand même radicalement changé. Je me souviens qu'il y avait quand même des classes à plusieurs niveaux.
Ah oui, oui, oui.
Mais des grands et des petits.
Ah oui.
Dans les classes.
Ce qu'on appelait des divisions.
Petite division et
grande. Dans une grande division et petite division.
Oui. La grande division, c'était pour le certificat d'études.
Alors, Maria, on ne vous a pas bien entendu parce que vous n'étiez pas en face de votre micro. Vous disiez la grande division, c'était...
Les aînés.
La dernière année dans cette école pour le certificat d'études.
D'accord. Et après le certificat d'études, donc soit on va la ferme, soit on continue les études.
Ah oui. Il n'y en avait pas beaucoup chez nous.
Non.
C'était un peu la pauvreté.
Ça équivaudrait à quoi la poursuite des études d'aujourd'hui après le certificat d'études? Ce serait comme aller vers un baccalauréat?
Le collège d'abord, le collège
élémentaire.
Et le lycée après, sans doute.
Il y a le BE. Oui.
On avait le brevet élémentaire voyons.
Je ne sais pas, Huguette. Si, voyons.
Brevet élémentaire. On faisait ça pour avoir le bac après.
Oui.
Il paraît que le niveau, il a baissé. Hein. Ah, ce qu'on dit. Hein.
Il paraît.
Je sais pas.
On ne peut pas savoir.
Il faudrait repasser les certificats d'études. Aujourd'hui, avec les...
C'était important à l'époque.
Par rapport au certificat d'études.
Et on passait quoi, justement, comme matière? Il y avait du français?
Ça pouvait...
Français, rédaction...
Hein? Français, rédaction, oui.
Calcul, la rédaction.
Histoire, géographie.
Tout.
Oui.
Tout.
Calcul.
Et maths,
la chimie. Chimie, physique. Hein? Physique, chimie.
Le certificat d'études, c'était important.
Physique et chimie, on faisait.
Oh, je ne sais pas, pour le certificat.
C'était très important, le certificat.
Il
n'y
avait pas de physique, chimie aussi. Il n'y avait pas de chimie pour le certificat, non.
Non, non, non. Pas pour le certificat.
Non,
non, non.
Après, oui. Pour le bien.
À l'époque, celui qui avait son certificat d'études, c'était déjà comme pour avoir le brevet
de ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Et ça permettait donc d'avoir après le brevet élémentaire, c'est ça, le BE, c'est, j'imagine c'est que c'est ça. Voilà. Et après ?
C'est à 14 ans qu'on passait le certificat d'études.
D'accord.
Bon. Oui.
Bon, vous avez de bons souvenirs, vous, de votre période de l'école, André, vous, l'école, c'est... Vous y alliez
pas beaucoup.
À reculons.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup ?
Non.
Non.
Je me suis rattrapé après.
Oui. parce que vous n'aimiez pas ça, vous n'aviez pas envie d'y aller ou parce non, que je... vous n'aviez pas eu l'occasion d'y aller ?
Si, aussi, l'école était juste à côté, t'as ouais. chez moi. Quand même.
Ouais.
Les professeurs, peut-être, la façon d'instruire les jeunes.
Ouais, ça compte.
Ça, ça plaît ou ça plaît pas, ça compte beaucoup.
Et vous, ça vous a pas plu d'abord ?
Non.
Mais après, oui.
Après, oui.
On va faire une première pause musicale, si vous voulez bien. La chanson qu'on va utiliser, qu'on va écouter, pardon, pas utiliser, s'appelle La Sérénade Argentine. Qu'est-ce qui a choisi cette chanson ?
La Sérénade Argentine ?
Oui. C'est Francis. Et il n'est pas là.
La sérénade indochinoise, mais je ne connais pas la sérénade.
Eh bien, on va quand même lui la passer parce qu'il n'est pas là. Et donc, on va se retrouver tout de suite après. Et puis après ça, on va continuer cette conversation que moi je trouve fort intéressante au demeurant. Et puis je vous rappelle que tout à l'heure, alors c'est pas le certificat d'études qu'on va passer, mais j'aurai quelques questions-réponses. On va faire un petit quiz, on va D'accord. s'amuser un petit peu pour voir un petit peu, ben, voilà, si vous êtes en mesure de pouvoir répondre à quelques questions. Il y a notamment des questions sur le coin. Ce sera dans un instant.
Si vous passez par là, ne lui dites pas combien mon cœur bat pour elle. Elle en aurait trop de joie. Dites-lui simplement que de temps en temps, une âme en rêvant l'appelle. Elle en aura du tourment. Dites-lui que celui qui l'aime ne vit qu'un impossible espoir, que ses pensées sont des poèmes qui lui chantent tout bas le soir. Dites-lui que la vie, le jour et la nuit, n'est que nostalgie sans elle. Elle en rira, mais tant pis. Il est dans mon village un cœur fragile et doux, un cœur dont le visage rendrait le diable jaloux. J'avais sa préférence, pourtant je suis parti. Depuis lorsque j'y pense, j'ai des regrets infinis. Si vous passez par là, ne lui dites pas combien mon cœur bat pour elle. Elle en aurait trop de joie. Dites-lui simplement que de temps en temps, mon âme en rêvant l'appelle. Elle en aura du tourment. Mais si vous la croyez sincère, en voyant ses yeux se rester, dites-lui qu'en aimant j'espère lui faire oublier le passé. Dites-lui qu'à mon tour, la nuit et le jour, je rêve d'amour pour elle. J'attends son retour. Dites-lui, je vous en supplie. Dites-lui, tant pis, qui je suis.
Ce C'est une chanson de Pierre Malard. J'imagine que c'est pas Pierre qui chante, hein, mais c'était la Sérénade d'Argentine. J'ai pas réussi à trouver qui chantait. Et puisqu'on parlait de technologie, je l'ai passé à Shazam et Shazam me l'a pas trouvé. Vous savez ce que c'est que Shazam ?
Non.
Non, je vais vous l'expliquer. Ce que c'est que Shazam. Quand un air passe à la radio et que vous ne savez pas ce que c'est, on prend son téléphone, on démarre Shazam et il vous dit ce qu'il passe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, ça évite de faire travailler trop sa mémoire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnera plus tard, mais en tout cas, on n'a pas besoin de retenir les chansons puisque maintenant on a Shazam. Voilà, ceci étant dit, c'était une petite plaisanterie pour démarrer cette deuxième partie de l'émission que nous enregistrons ici à la résidence La Lorientine avec, avec les résidents. André me disait tout à l'heure, Maria, combien vous aviez de vaches à la ferme ?
Une douzaine.
Une douzaine.
Une petite ferme et locataire.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et le propre. Et le propre.
Ouais.
Le propriétaire, ben, c'était le grand châtelet à côté.
Ah, d'accord.
Qu'il fallait tout.
D'accord, donc vous ne parliez pas le français, mais vous saviez compter.
Comment ?
Je dis, vous ne parliez pas le français, mais vous saviez compter, au moins les vaches.
Je ne savais pas le français du tout. Et on faisait punir. Les bonnes sœurs encore étaient raisonnables, mais les coques publiques, c'était encore pire. C'est normal, parce que c'était public.
C'était public.
Mon mari, qui était gamin aussi, bien sûr. Alors, c'était plus grave. Il faut que... Ils étaient drôlement punis.
Ben
ouais. Parce qu'on parlait le breton.
Bon, mais aujourd'hui, on essaie de mettre les enfants dans les filières en breton.
Et bien, justement...
Et on a tous les problèmes du monde pour réussir à...
J'ai un fils qui va... Qui va au cours de breton maintenant tous les semaines.
Bon, vous l'aidez ?
Il va à Rayantec.
Bon, ben ça c'est... Bon, ben c'est bien, ça permet de pouvoir faire vivre la langue.
C'est des petites...
Mireille. Oui, alors on va se rapprocher un petit peu du micro. J'aimerais bien qu'on parle du logement. Ça a changé les conditions de vie, la manière dont...
Ah ben certainement,
ouais.
Oui.
Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? Le confort ?
Ben, c'est-à-dire que c'est difficile de... C'est, vis-à-vis de nous, ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit maintenant, ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce que vous ne regrettez pas, par exemple ?
Parce que nous, on a eu un logement très, 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 très difficile au début. Très, très, comment dire, on ne peut pas dire insalubre, mais très... Pas commode du tout, avec aucun confort. Et puis que maintenant, il y a le confort. Alors, quand on a vécu, moi je vous parle de ça quand j'avais 20 ans, eh bien, on avait dans notre chambre, on avait 4 enfants. On avait donc les 4 enfants dans notre chambre, parce qu'ils étaient tout petits. Ils avaient 4 ans. 4 ans, 3 ans, 2 ans et 1 an.
Ça fait beaucoup. je pense que ça devait être calme.
Et le cinquième, 2 ans après.
Oh, ça devait respirer la paix, le calme, j'imagine.
Et puis, il fallait traverser un couloir avec les escaliers pour aller d'une pièce à une autre, pour les coucher et aller à la salle à manger. On n'avait pas de chauffage. Il fallait le chauffage au charbon. Non. On n'avait pas de toilette. Les toilettes étaient dehors. Et tout était comme ça. Tandis que maintenant, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus rien. On ne peut pas comparer.
Non, c'est vrai que c'est difficile.
C'est absolument incomparable.
D'ailleurs, pour... une certaine génération, c'est inimaginable.
Oui. Ouais. Ben, vous savez, avant que je sois mariée, j'étais en ferme aussi, en ferme comme Maria. Et nous, on avait les rats qui traversaient les montagnes. Quand on montait les escaliers, on avait les rats qui nous montaient à travers les escaliers.
Non.
On avait les rats qui traversaient les pièces. C'était tout ça. Ça n'a rien à voir avec la vie de maintenant. Rien du tout.
Ouais.
Et la nuit, les rats, la nuit. Ils faisaient la java dans le grenier, dans le grenier de blé. Alors on se demandait qu'est-ce que...
Ben, oui, c'est les rats.
Ben oui, il y avait des rats partout.
Oh là là.
Ben oui.
On ne peut pas comparer la ville et la campagne. Non. La vie de la ville et la vie de la campagne.
Alors, mais par exemple, quand on doit aller laver son linge,
oui, ouais,
donc il n'y a pas de machine.
Eh ben, c'est à la mare.
C'est à la mare.
À la mare, en campagne, c'est à la mare.
Mais la mare, c'est aussi un peu un réseau social, c'est là où on rencontre du monde.
Ah non, pas en campagne, on était espacés.
Hein. Ah oui, d'accord.
On n'allait pas à la mare, à la campagne, non.
Ben nous, on allait à la mare. On avait un bout de bois, une planche, et puis on frottait le linge sur la planche à la mare. Ouais.
Sinon, c'était le lavoir, quand il y en avait un, mais pas à la campagne. Donc ben. Le lavoir, c'est plutôt en ville.
Ben c'est,
enfin, en ville, c'est dans le village.
Entre les deux. Ouais. Entre les deux. Les villages, les petits villages avaient des lavoirs.
Ouais. Et là, c'est un lieu où on se rend compte quand même.
Même ma maison, que je vous dis, a plus ou moins insalubre, avait un espèce de lavoir.
Ouais.
Peut-être.
Dans les... Effectivement, ouais, la cohabitation. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer plusieurs générations qui vivent sous le même toit. Là, vous avez évoqué des petits.
Hein. C'est impossible.
Mais c'était monnaie courante d'avoir plusieurs générations sous le même toit. Ça apportait quoi, d'après vous?
Ça dépendait d'où, monsieur. Moi, j'étais de Paris, ça ne se faisait pas, ça.
Ça ne se faisait pas.
Moi, j'étais avec mes parents et puis c'est tout. Hein.
Ça, c'est pareil, c'est encore en campagne, surtout, que ça se faisait.
Ouais. C'est la campagne. Hein. À Paris, c'était pas du tout pareil. Alors, des toilettes, par exemple, elle n'avait pas partout. Mais dans la cour, il y avait toujours des toilettes. On mettait les pieds dessus, des pédales. Aujourd'hui, on avait des toilettes comme ça. Je me rappelle qu'un jour, oui, le fils de la concierge, il s'est trouvé sous un jeune monsieur.
Oh,
le monsieur, il s'y fait atteindre. Et puis, il y a le petit qui était sous lui. Ça avait bardé, j'aime autant vous le dire. Hein. On le sent, jeune, des gens qui se font attention à rien. Hein. Je vous assure. Hein.
Marie-Lou.
On préférait ne pas lui en parler, mais elle l'aurait, je ne sais pas ce qu'elle lui aurait fait, la mère.
Marie-Lou, vous avez vécu aussi avec plusieurs générations à la maison, ou c'était de façon assez traditionnelle?
Mais en fait, chez nous, en appartement, on avait un seau, quoi, ouais. Pour moi et mon frère, ouais. Et puis, c'était toujours moi qui le vidais, quoi, parce que il était plus jeune que moi d'abord, et puis j'étais toujours là pour les corvées, voilà.
Ok. Bon, moi, je voulais parler des générations, mais si vous voulez qu'on reste sur le sujet...
Non.
On peut, hein. Il y a
on n'avait pas de jardin.
C'est votre émission.
Hein?
On n'avait pas...
Si, un petit jardin.
Donc, on vidait le seau sur le
terrain, oui.
Sur le poireau.
Oui. Oui.
Eh ben voilà. Ça me permet justement d'aborder un sujet. Vous avez... On a des poubelles jaunes, on a des poubelles vertes, on a des poubelles bleues. Il y a un badge pour aller à la déchetterie. Vous, évidemment, vous n'avez pas connu tout ça pendant votre vie. Est-ce qu'on est devenu complètement fou? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, au contraire, de raisonnable et de nécessaire? Vous en pensez
nécessaire,
quoi?
Nécessaire,
Marie-Lou, c'est nécessaire.
Ah oui.
Parce qu'on ne sait plus collecter ni trier les déchets. À un moment donné, il y a un truc qui a dérapé.
Ouais.
Qu'est-ce que vous... Ouais. Marie-Lou, oui.
Moi, je trie bien.
Voilà.
Ah oui. Enfin, quand j'étais à l'appartement, bien sûr. Mmh. Oui. Il y avait la poubelle jaune, comme vous dites.
Ah ben oui.
La verte qui était pour le déchet alimentaire, c'est ça? Et puis...
La bleue.
Les ordures ménagères.
La bleue, oui, les ordures ménagères.
Ah oui.
Et la jaune pour le carton, les pots de yaourt. Voilà, oui.
Et quand on habitait un immeuble, il y avait un vide ordures.
Oui.
Ça vous rappelle? Un truc dans le mur.
Il y avait un
vide ordures, oui. Alors là, par contre, il n'y avait pas beaucoup de trous très illustrés.
Chez nous, il a été bouché, le vide ordures, il y a quelques années.
Ah, c'était souvent le problème. Quand on est dans un immeuble, il suffit que celui du dessous...
ça fait beaucoup de bruit quand ça descend. Hein.
Et puis ça fait du bruit quand ça descend.
Non seulement ça, mais par exemple, vous aviez un vieux matelas, qu'est-ce qu'on en faisait?
Ah, ben le vieux matelas, il fallait descendre
en bas. On le mettait pas dans l'escalier, on le mettait avec les déchets.
Les vieux matelas qui
sont
c'est
en récent, ça, encore. Moi,
ah
ça,
bon
je, ah oui, je l'ai
ah
vu.
Ah non, moi, je n'ai pas vu ça pas chez longtemps. Moi, non.
Ben, qu'est-ce qu'elle a fait, la commune? L'entourage en bois, c'était bien fait.
Oui.
Ils ont tout enlevé, terminé. Les matelas débrouillés, où? Voilà. Alors, ce qu'ils font maintenant, c'est quand même un peu normal. On téléphone en mairie.
Oui, c'est ça, oui.
Il y a un camion qui passe tel jour, telle heure.
Tel jour, oui, c'est
mois,
ça.
Du mois, puis voilà.
Pour les matelas,
parce
oui.
Que c'est normal. Vous avez,
matelas sommiers,
vous
oui.
Allez ouais. Discuter avec un genre, une personne qui a 90 ans, on va dire, moi, le matelas, je ne vais pas le soulever. Hein. Je ne vais pas l'amener à la déchette.
Oui.
Hein, ouais. Ah si, il faut quand même un minimum. Mm. Et moi, j'ai vu, et ça, la commune, là, cette fois-là, elle avait raison. On venait de refaire la rue qui passe à côté du cimetière mécanique en bitume. Hein, c'était propre. Ils avaient monté des protèges-vues, si on veut, en bois. C'était propre, c'était bien fait. Trois semaines après, il y avait des matelas. Il y avait n'importe quoi dedans.
Ben oui.
Alors les ouvriers, pff, ils en avaient marre. Où voulez-vous qu'ils mettent ça? Dans le camion poubelle, il n'y a pas de place.
Non.
Il fallait qu'ils prennent un camion spécial de la mairie pour aller vider ça.
Ouais.
Ouais.
Puisqu'on parle d'environnement, en préparant cette émission, mon garçon, alors il a 16 ans, hein, donc c'est pas non plus un petit, hein.
Ouais.
Donc on a eu l'occasion de discuter de ce dont vous avez parlé, et il me disait, oh ben non, mais avant il y avait moins de pollution. Et puis je me dis, je ne suis pas si sûr que ça, je vais poser la question, mais je n'en suis pas si sûr, puisqu'on parlait tout à l'heure de la collecte et du tri sélectif.
Oui, oui.
Moi je me souviens aussi d'une époque, alors... Je suis un peu plus âgé que mon fils, évidemment, vous l'avez remarqué. Mais il y avait des incinérateurs, il y avait des usines, beaucoup plus, j'ai l'impression. Enfin, voilà, dire qu'on quitte un monde qui n'avait pas de pollution, c'est pas vrai, on est bien d'accord.
Et les gens, si vous voulez respecter ce que met en place n'importe quelle commune,
ouais.
Ça irait très bien. Il n'y a pas de raison.
Ouais,
pour vous, ça se fait à l'étranger, ça se fait partout.
C'est du. Oui.
Partout. Vous voyez pas, moi je parle de ça à l'Allemagne ou l'Italie ou en Espagne ou tout. Vous voyez pas ça.
Ouais.
Vous voyez pas des déchets dans les rues et tout
non.
Ça.
Non.
Oh, non. D'ailleurs, quand on vient de l'avion à Paris, on est étonné de la malpropreté qu'il y a.
Voilà.
Oh oui.
Moi, je suis rentré d'Allemagne. J'ai passé 6 ans d'Allemagne avec ma famille. Quand je suis rentré, j'étais outré.
Ah oui, moi
outré.
Je suis... Nous, c'était pareil, vous, monsieur.
Vous oh vouliez là aller là. Aux toilettes pour une dame, mais c'était impossible, on ne pouvait pas rentrer dedans.
Et quand vous ne trouviez pas dans les trains bouchés les toilettes, parce
ouais,
que
voilà.
Pour s'asseoir sur le siège, et ben les gens, ils fermaient les toilettes, ils se disaient... Et puis si vous aviez envie d'aller faire bien. Pipi, ben, vous restez avec votre envie, hein. Ah, ça ouais. Je l'ai vu.
Ça,
une nuit comme ça, se retenir...
C'est récent, hein, c'est pas tellement
non,
mieux,
non, mais...
je parle.
Armel, quand j'ai parlé de la pollution, je vous ai vu... Oui. Réagir.
Avant, on avait, disons, très peu d'ordures.
Oui.
Moi, j'ai connu un temps où nous avions très peu d'ordures. C'était des ordures, des déchets, bon, des coques de coquillages, de bigorneaux, de palourdes, de moules, d'huîtres. J'entendais quand
les
on
bouteilles.
Avait le... Non, quand
il y a... d'ordures.
Oui.
Ça descendait.
Ouais. Allez-y, continuez. Amen.
Et puis est arrivée une période où on a remplacé les emballages que nous avions, c'est-à-dire le pot à lait ou le pot de yaourt en verre, etc. On a remplacé par des plastiques et ça a fait énormément de pollution. Énormément. Mais le temps qu'on réagisse... Il y en avait plein la mer. Parce oui. Que tous ces plastiques-là sont partis à la mer.
Tout
il y en a
fait.
Plein la mer.
Oui.
C'est une pollution qu'on ne la réglera pas. C'est pas possible.
Non.
C'est pas possible. On a réagi trop tard. Beaucoup trop tard.
Il est arrivé chez nous. Vous voyez, en ce moment, il y a des reportages là-dessus. Je voulais savoir ça. Oui, les marées vertes, qu'ils appellent ça. Des marées
même
vertes.
Avec les algues vertes.
Il y a des morts. Il y a eu des morts chez les humains, chez les chevaux, les animaux.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on fait?
Pas rien.
Pas grand-chose. Vous croyez pas qu'il y a quelque chose à faire là?
Maria, ça vous inquiète, vous les... C'est... Enfin, voilà, André évoquait les conséquences de...
C'est inadmissible, quoi.
De la pollution. Vous avez vécu au grand air, à la ferme.
Oui.
Oui, mais à la ferme, vous avez dû des choses propres.
Là, ouais, aujourd'hui, quand on écoute André qui parle des algues vertes et de ce que ça peut effectivement...
Ah oui, ça fait des dégâts, formidable.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Maria ?
Évoluer, oui.
Ah oui.
J'ai une petite fille qui est dans...
Dans l'environnement, oui.
Mais de toute façon, avant, dans les fermes, il y avait ce qu'on appelait un fumier.
Oui.
On visait toutes les étables à vaches, l'écurie, on visait...
Oui, mais dans le fumier, mais pas n'importe quoi.
Ah non.
Vrai ou faux?
Comment?
Dans le fumier.
Oui.
On met pas n'importe quoi.
Ah ben non.
Voilà.
Que le fumier...
Quand les Français ont compris ça, eh ben c'est sauvé, c'est fini. Ce sera propre.
Bon.
Le fumier pour
c'est
les
teintes. Hein.
Pour les teintes, sur les tentes, sur les terres après.
Bon, après tout ça, on mettait
après,
ça
c'est un point de vue, hein.
Dans des
bacs
des, oui, puis on en emmenait ça dans les champs. Mmh. On étendait ça dans les champs.
Oui.
Le fumier, ça s'étendait dans les champs.
Bien sûr.
Madame, oui. On étendait ça.
Oui, oui.
Puis après, on tournait la terre.
Exactement.
Oui, madame, c'est vrai.
Pour semer.
C'est ce que disait...
Ou pour planter.
D'où ça vient, tout ça? C'est la mauvaise foi.
On
est bien d'accord, là, tu...
La consommation.
Oui, d'accord, mais c'est la mauvaise foi. Si on vous met à une poubelle comme de couleur jaune, vous n'allez pas mettre des parpaings dedans. Mais ça, moi, je l'ai vu.
Oui.
Ben non, écoutez, il faut arrêter. Je travaillerai en mairie, moi. Vous savez ce que je ferais? J'aurais toujours mon carnet avec moi et mon crayon. Vous voyez ce que
et
je veux dire?
Très bien.
Ah ben, oui.
Ben, c'est bien.
Et quand on punit les gens, c'est fini. C'est fini. Il n'y a que ça qui compte.
Et oui. Les faire payer, puis c'est tout.
Ah oui, mon père le disait, les gens ne connaissent que l'argent. Il faut faire payer.
Les Français sont tout le temps à se péter. Mais si on les met au pied du mur, c'est fini. Terminé.
Claude.
Oh.
Oh, je vous réveille, Claude. Non. Oh. On parlait des algues vertes tout à l'heure. Vous avez passé votre vie professionnelle, alors au contact de la mer finalement, puisque
les algues vertes.
Parlez bien dans le micro, Claude, qu'on vous entend.
Les algues vertes viennent de la campagne, ça c'est sûr.
Ouais. Vous avez vu la faune, donc en l'occurrence les algues vertes, évoluer au fur des années, voire même et la flore aussi, enfin la flore et la faune pour le coup.
Oh,
vous avez dû aller le dire.
Évoluer, oui. Non, c'est pas facile, hein.
Non.
Oh non.
Moi,
là où je vais des fois à Saint-Brieuc, là, c'est là où viennent, où viennent beaucoup les algues vertes, là.
La salade.
Eh ben, on voit que ça dérangole vraiment de la campagne, quoi, du haut, hein. Je ne sais pas comment ils vont faire pour résoudre ça. Hein.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas si longtemps, moi, je voyais des chalands qui étaient faits pour ça. Ça se récupère. Mais pour mettre où, maintenant?
Oui, c'est vrai.
C'est comme les déchets.
Les vasières. La vase, elle était raclée. Et on l'a amenée dans le... Comment? Du côté gros, là-bas, ou je ne sais où. Mais ouais. C'est plein. C'est plein partout. Vous voulez mettre ces produits-là? Voilà. Il faut trouver la réponse.
Avant de les mettre, si on pouvait les empêcher de venir, ce serait déjà pas mal.
Voilà, aussi.
Bon, et ça nous fait encore plein de sujets de conversation pour les prochaines émissions. On va faire encore une petite pause. C'est passionnant, hein. Franchement, c'est passionnant. On va faire une petite pause et après ça, je vous proposerai qu'on fasse un petit jeu ensemble. Petit jeu de quiz. Voilà, on va faire appel à vos connaissances, à vos souvenirs. Je suis sûr que vous aurez des réponses aux questions que je vais vous poser. Et puis après ça, je vous ai prévu un petit jeu musical. Mais pour l'instant, on va écouter une chanson de Ray Dakker. Est-ce que Ray ça dit Dakker. Quelque chose à quelqu'un?
Oui, ça dit quelque chose.
Ça Ray dit Dakker, quelque chose à Huguette.
Ben oui, Ray Dakker. Ouais. Oh là là, je ne me rappelle pas. Comme ça, de visu. une chanson de Reda Kerr.
Mireille aussi.
Ah non, mais ça, moi, c'est mon Reda Kerr. Je connais, j'ai entendu Reda Kerr, mais
je Reda Kerr. Tout de suite, oui, j'en ai pas. Tout de suite, j'en ai pas. La mémoire des quais. Pourtant, Reda Kerr.
Eh ben, le morceau qu'on va écouter s'appelle Bonsoir, Madame la Lune.
Ah, ah oui, c'est elle, c'est lui qui chantait ça. Bonsoir, Madame la Lune. Alors, bonsoir. Ah, oui.
Comme moi, on va pas la passer.
On va écouter.
Mais je sais pas.
Ah, bah, si vous voulez la chanter, on la
chante. C'est votre ami Pierrot qui vient ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Lune. Puis après, je sais pas, parce qu'il y a des années que je chantais cette chanson-là.
Bon, on va...
Bonsoir, Madame la Lune. Bonsoir. La 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 la. C'est votre ami Pierrot qui vient ce soir. Bonsoir, Madame la Lune.
Voilà. Eh ben, on va l'écouter et puis bravo quand même. Ouais, bah oui, vous pouvez l'applaudir, il n'y a aucun grand plaisir. Pour l'instant, ça ressemble à ce que Huguette a chanté.
Pierrot sortant du cabaret, un soir que pour noyer sa peine. Il avait bu du vin clairet, revenait par la nuit sereine. Le firmament resplendissait, les étoiles étaient en fête, et Pierrot qui seul devisait, dit soudain, en levant la tête, bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. C'est votre ami Pierrot qui vient vous voir. Bonsoir, Madame la Lune. Je vais rentrer chez moi tout doux, tout seul comme un célibataire. Car pour converser avec vous, vrai, je suis par trop gris, ma chère. Puis vous avez là-haut, ma foi, des airs de lune qui flagornent. Je crois que vous riez de moi. Tu Dieu, vous me faites les cornes. Bonsoir, Madame la Lune. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Pierrette en songe va venir me voir. Bonsoir, Madame la Lune.
Bonsoir, Madame la Lune, sur Radio 162. On est dans la dernière partie de l'émission. Déjà, ça va, c'est une vitesse cette émission, c'est fou. On s'ennuie pas. On va jouer ensemble, si vous voulez bien. J'ai préparé un certain nombre de questions à vous poser. Alors, on a de tout. Hein. On va avoir des questions sur un petit peu de questions sur la musique. On va avoir un petit peu de questions sur l'histoire. On va avoir un petit peu de questions sur l'Orient. Et on va commencer. Alors. Vous, celui qui sait, il répond. Ça peut être aussi des réponses collectives. On va commencer par une chanson, enfin un chanteur qu'il faut découvrir. Celui qui a interprété la chanson La Mer, c'était qui ?
Charles Trenet.
Ah oui, c'est une bonne réponse collective. Alors, question un tout petit peu plus difficile cette fois-ci, parce qu'on parlait de l'école tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous ai préparé cette question-là. Est-ce que vous savez quelle réforme importante concernant l'école a été mise en France à partir de 1959 ? Réforme mise en œuvre à partir de 1959.
Les tenues, peut-être ?
Là ?
Les tenues ?
Les tenues, non.
Mélanger les gars et les filles ?
Mélanger, non, c'est pas mélanger 59. Les gars et les filles. 59,
les filles et les garçons.
Non, c'est... Non. Si je vous dis que c'était la réforme...
Les filles d'un côté, les garçons de l'autre.
Alors,
non.
La réforme Berthoin, ça vous dit quelque chose ?
Non.
Eh bien, la réforme Berthoin, c'est celle qui prolonge la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans.
16 ans.
Ah oui.
Voilà. Maria, vous n'auriez pas pu quitter l'école avec la réforme Berthoin. Voilà. Alors, quelle grande actrice, là on parle de cinéma, symbole de la beauté et de la mode dans les années 50, a joué dans « Et Dieu créa la femme ».
Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot, oui. Ouais, magnifique hein, dans ce film. Vous l'avez vu ?
Oui.
Autre question. Alors cette fois-ci, on va parler mode. Question simple. Quel est l'article de mode emblématique porté par James Dean et Marlon Brando dans les années 50 ? Vous voyez ? Alors le jean, c'est une partie de la bonne réponse.
Le jean, oui.
Oui, et
La casquette, du pantalon.
Alors oui, effectivement, on voit bien la casquette noire de Marlon Brando. Mais non, dans les années 50, c'est vrai qu'il y en avait un peu noir. C'est devenu d'ailleurs un peu le symbole des voyous.
Oui.
La moto, oui, mais pour faire la moto.
Le casque.
Le casque, mais
le
surtout.
La veste de cuir.
Surtout le blouson.
De cuir.
Le blouson noir, qui fait son arrivée dans les années 50 avec justement James Dean et Marlon Brando.
Ouais.
T'as d'ailleurs, si je vais vous citer quatre danses qui sont devenues extrêmement populaires auprès des jeunes dans les années 50. Attention, dans les années 50, pas 60, pas avant. Le twist, le rock'n'roll, le tango ou la valse ? Lequel de ces quatre-là ? C'est pas la valse. On est d'accord.
Le twist.
Ah, le twist, c'est plus tard. C'est déjà les années 60, le twist. On est dans les années 50 et c'est le rock and roll. Ah, le twist arrive un petit peu après. Tiens, d'ailleurs, on est en 1957. Et on a les yeux tournés vers le ciel. Enfin, quoique. L'Union soviétique vient de lancer pour la première fois un satellite artificiel.
Le Spoutnik.
C'est le Spoutnik.
Ah oui, le Spoutnik.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Alors, est-ce que vous savez quel président français a été élu en 1953 ? 1953. Alors là, ça y est, il faut remonter. Vous voulez des propositions ?
Pompidou ?
Non. Je vais vous donner des propositions.
Oui.
Charles de Gaulle. Vincent Auriol. Georges Pompidou ou bien René Coty.
Auriol.
Ah, René Coty.
Auriol, dirait.
Alors, André dirait Auriol. Ça, c'est à ma droite. À ma gauche, Marie-Lou dit René Coty.
Oui.
Et c'est Marie-Lou.
Ah.
Qui a donné la
bonne réponse.
René
Coty.
La bonne réponse. René Coty, oui, ouais, exactement.
53, oui.
Et tiens d'ailleurs, vous savez qui était le Premier ministre en France en 1958 ? Là aussi, je vous donne encore des propositions.
En 58.
Charles de Gaulle, Mendès France, Pompidou,
Mendès
ou Debré.
Mendès.
58.
Non.
Non.
Debré.
C'est Michel Debré.
Debré, oui.
Ah, exactement.
Ah bah, Michel Debré.
Eh oui. Tiens, je vous donne quatre propositions et c'est pareil. Il y a une innovation technologique, puisqu'on est dans les années 50. Hein, c'est une innovation qui a été introduite en France dans ces époques-là, les années 50. Est-ce que c'est le téléphone portable ?
Non.
Non. Est-ce que c'est le Concorde ?
Non.
Est-ce que c'est le TGV ? Non. Ou est-ce que c'est la télévision en couleur ?
Oui,
c'est la télécouleur.
Ah non, c'est pas elle était en noir et blanc. En 58,
c'est la couleur.
La couleur, elle arrive. Elle arrive à la fin.
En 58,
en 55.
Ah oui. Eh oui, ça arrive. Allez, on continue avec une question. Bah tiens, importante. Je pense que c'est une question qui reste toujours d'actualité. De toute façon, quelle mesure importante concernant les femmes a été prise en France en 1956 ?
Le droit au vote.
Alors, le suffrage féminin était déjà acquis, mais il y a une autre mesure. Et notre mesure en 1956.
Le droit de vote à 21 ans.
Non, ça ne concerne pas le droit de vote. C'est quelque chose de la vie quotidienne.
Ça concerne les enfants, non ?
Alors, ça ne concerne pas les enfants, ça concerne vraiment les femmes, pour le coup.
Les femmes.
Le droit de vote aux femmes.
Alors, non, c'était déjà acquis.
Ah, oui, non, c'est avant, ça.
Mais alors, ça paraît fou, hein, aujourd'hui, vous dites ça à une jeune femme. Eh bien, à partir de 19... Non. Non, non, elles ont désormais le droit de travailler sans le consentement de leur mari.
Ah oui.
Il a fallu ça.
Oui, ben,
1956.
Mais est-ce qu'elle gardait l'argent aussi?
Ça, c'est alors, le devoir.
Un peu de justice, hein.
Oui, parce qu'en principe, qui tient les barreaux?
Si le mari, si elle travaille, mais le mari ne veut pas leur laisser l'argent, qu'est-ce qu'elles font?
Oh, et ça va nous donner un sujet pour les prochaines émissions, ça. Hein,
faut faire confiance aux femmes, sinon c'est plus la peine de se marier. Hein.
Donc voilà,
chez mes parents,
1956.
Mon père commandait, et vous savez, il le disait, hein, il n'était pas lorrain pour rien. Mais à côté de ça, il était très, très respectueux de ma mère. Hein. Mm-hmm. Ah oui, elle n'avait jamais à demander de l'argent, rien du tout. Hein. C'était tel jour qu'il lui donnait de l'argent, mais si elle oubliait. Il lui disait, au fait, j'ai mis ton argent de côté. Ah oui, ça alors, ça.
Huguette, vous trouveriez impoli si je vous demandais quel âge vous avez?
Si.
Je vous demandais votre âge. Vous me trouvez impoli si je vous demande votre âge?
Ben non, monsieur.
Non.
Ben écoutez, à vrai dire, je suis née en 1925, parce que comme ça change, je ne m'en souviens pas toujours.
97,
oui.
C'est vous qui avez la bosse des maths, hein, c'est pas moi. Hein.
97.
Mais oui.
98.
Là, c'est marrant, du coup, on ne sait plus bien compter. Hein.
Eh bien, tu vas avoir 99 en 2000.
C'est ça.
C'est ça. Ouais. Eh, ouais. Vous êtes la plus jeune, finalement, autour de cette table.
C'est vrai?
Oui, je pense.
Je ne sais pas, mais enfin, ça ne me gêne pas.
Elle est la plus belle.
Oh là là, mais coup de compliment, et c'est votre journée, hein, Huguette. Hein, vous avez bien fait. Voilà, vous avez bien fait de venir. Hein.
Mais c'est vrai, pour son âge, elle est la plus belle, quand même.
Je crois que la plus jeune, c'est moi.
Elle est magnifique. Alors, on va continuer ce quiz avec des questions qui vont concerner cette fois-ci Lorient. Et puis après ça, je voudrais qu'on joue avec un petit jeu musical très rapide. Est-ce que vous savez quand la poche de Lorient a finalement capitulé? Je vais vous donner, je vous donne trois dates, ou est-ce que vous le savez de mémoire?
Trois dates.
Est-ce que c'est le 8 août 1944, le 10 mai 1945 ou bien le 7 septembre 1944?
45.
C'est une bonne réponse.
Le 8 mai 45.
Exactement. Est-ce que vous savez, c'est toujours une question qui concerne cette période-là, quel était le nombre approximatif de soldats allemands qui ont organisé justement cette poche de Lorient? Vous voulez des propositions? Si j'en ai, oui, j'en ai.
3 000 à peu près.
Oh, combien?
3000.
Oh là là,
c'est trop.
C'est beaucoup passé. Oui. C'est beaucoup passé. Alors, ils n'étaient peut-être pas tous là, hein, mais en tout cas, dans l'organisation.
Parce que, demande.
Ouais. Dans le quiz que j'ai trouvé. Bon, c'est pour moi qui ai inventé
les
questions.
Dans les 60 000 à peu près.
Alors, je vous donne les chiffres. 10 000, 20 000 ou 25 000.
Alors, 25 000.
25 000. Oui. Exactement. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage du bâti de la ville intramuros de Lorient qui a été détruit pendant la guerre? Est-ce que c'est 50, 70 ou 90%?
70. Je dirais, moi, je ne sais pas.
90.
C'est 90. C'est énorme. Hein.
Oui, il y avait beaucoup de destruction.
Ouais. C'est énorme.
J'osais pas.
On en parle d'ailleurs dans le journal de Lorient de la semaine dernière.
Ouais. Ah oui,
ah. Ça me revient.
Et du coup, après, on construit des baraques à partir de 1946 pour faire face au manque de logement. On a parlé des conditions de logement. Là aussi, il y avait des conditions de logement particulières.
Oui,
c'est ça. Je ne trouvais plus le début de ma phrase pour ça. Combien, d'après vous, il y avait de baraques qui ont été construites à Lorient. 336, 436 ou 536 ?
536.
500, oui. C'était 436, ouais. Entre les deux.
Il ne faisait pas chaud dans les baraques, vous le dites. Hein.
Oh, mais on ne se trouvait pas trop
qu'est-ce
mal.
Qu'est-ce qui pouvait faire froid, mon Dieu.
Oui, mais... Vous avez des courants d'air.
On ne se trouvait pas trop mal, quand même.
Moi, j'ai habité plus de 10 ans une cabane.
Une baraque.
Une baraque, c'était très bien.
Vous étiez où ?
À Lokvikelik.
Ah, Lokvikelik. Il y avait des baraques.
Voilà.
Ah oui.
Partout.
Ah, ben je savais partout.
Lokvikelik,
oui. Ah oui, partout dans la ville, oui.
Partout.
Ça, d'accord, je savais.
Oui.
Mais à Lokvikelik, je ne savais pas.
Il n'y avait plus beaucoup de maisons.
Allez, on termine avec trois questions. La première question, on va dire, allez, celui qui est le plus près. Quelle quantité de gravats a servi à combler l'anse de Kergroise ?
Voilà.
Alors, la réponse va s'exprimer en mètres cubes.
Oui.
Évidemment. Pas en nombre de cailloux.
100 000.
100 000. 100 000 mètres cubes.
Oui.
Vous êtes loin.
Loin.
Ouais.
Bon.
Vous êtes
25.
Très loin. 25 000.
Oui. Je sais que c'est beaucoup.
Mais... Regarde.
Ouais. Ah, vous êtes encore plus loin.
Plus que ça.
Ouais. Ouais. Ah oui. Ah oui. Claude, vous avez une idée ?
Non.
Non.
Aucune idée.
Ça se coûte en dizaines, en centaines de milliers, en millions ?
Oh, oui, en centaines de mille quand même.
1 700 000 mètres cubes. Vous voyez ce que ça représente ? 1 700 000 mètres cubes.
Ouais.
Donc on fasse le calcul avec Huguette pour savoir combien de piscines olympiques on peut remplir avec 1 700 000 mètres cubes de gravats. Enfin, en tout cas, ça a servi à combler l'anse de Kergroise, hein, pour le coup. Vous savez en quelle année l'école de Merville, puisqu'on a parlé de l'école tout à l'heure, l'école de Merville a été ouverte à Lorient ?
Avant la guerre ou après la guerre ?
Après la guerre.
Après la guerre ?
Avant 60.
L'école de Merville ?
L'école de Merville, oui.
Avant 60.
Ah ben oui, en 46 par là.
On est en 1952.
52 ?
Ouais. Et puis on est sur une dernière question, et puis après ça je vous passerai un petit extrait musical. Sur cette question, c'est quel était le maire de Lorient de 1981 à 1998 ?
Le Drian.
Bah, je crois que là vous aviez tous la bonne réponse.
Hein. Oui.
Ah, visiblement, c'est quand même un maire qui a marqué la...
Non, c'est pas ça.
Si, c'est ça. C'est une bonne réponse. Si. C'est ça. C'est effectivement Jean-Yves Le Drian, mais c'est effectivement apparemment un maire qui a beaucoup marqué.
Il a laissé sa place pendant qu'il était maire.
Comment ?
Alors, Claude, il faut bien parler devant le micro.
Pendant qu'il était maire.
Allez, il nous reste un tout petit peu de temps pour pouvoir faire un jeu musical. Vous avez le casque sur les oreilles. Le but du jeu, il y a 5 morceaux que je vais passer. C'est essayer de les reconnaître. Chaque morceau va durer quelques secondes. Et puis après ça, on discute ensemble sur qui y avait, qui n'y avait pas. Et vous allez réussir à trouver ça. Je vais vous passer le morceau en question. Attention, vous êtes prêts ? C'est parti.
C'est une chanson qui nous ressemble.
Il m'entend.
On voit danser le long des golfes clairs.
Sous le pont de Paris, jusqu'au soir, vont chanter.
Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique.
Village au fond de la vallée, loin.
qu'après 19 années.
Les compagnons de la chanson.
Compagnons de la chanson.
C'est bon. Vous me voyez, donc il y avait quelques-uns. C'est quelques-uns, je suis sûr que vous les avez reconnus, parce que je les ai entendus. Voilà.
Je pense qui c'est, mais je ne trouve pas leur nom.
Alors, on va essayer de. Alors, qui n'en a reconnu aucun?
Ben moi, j'en ai reconnu deux toujours.
Le premier, c'était Yves Montand.
Le premier, c'était Yves Montand.
Il y avait Miss Tinguette aussi?
Alors, non, je n'ai pas mis Miss Tinguette dedans.
Non. Pas Miss Tinguette, mais je vois les autres. Mais Rina Ketty, peut-être, mais encore, je ne crois pas.
Oui, peut-être.
J'ai pensé à Rina Ketty, mais ce n'est pas ça.
Bon. Est-ce que vous aviez reconnu Charles Trenet quand même?
Oui.
Le deuxième.
Oui.
Celui-là, ouais.
Celle-là, vous l'aviez. Juliette Gréco.
Oui, voilà. C'est ça que je cherchais.
Je tiens à rester bloqué sur Juliette Gréco. On a entendu aussi. On a entendu la bande originale d'un film. C'était Le Grisby.
Je connais oui.
Voilà. On a entendu Cora Vauquer avec la complainte de la butte. André Claveau, je l'ai entendu.
André Claveau, oui.
Voilà. Puis on a écouté aussi, on a entendu. On a peut-être entendu aussi Jacqueline François.
Ouais, c'est Jacqueline François, j'aurais voilà. pas connu longtemps.
Et puis, on a entendu, alors on ne peut pas dire que ce soit un duo, mais ils chantaient à deux. Il y avait des compagnons de la chanson qui ont chanté Les Trois Cloches avec
Édith Piaf.
Édith Piaf,
oui.
Voilà, et bien écoutez, bravo.
Ils ont chanté Mes Jeunes Années.
Bravo.
Que moi je chante aussi, de temps en temps.
Oh. On fera une spéciale peut-être un jour où vous chanterez. Voilà, donc on referme le livre de souvenirs de ce second chapitre de Mémoire vive.
Merci.
Nous espérons que les récits de nos invités ont résonné en vous. Ils apportent, vous l'avez compris, un éclairage sur le passé, mais également sur ce qui façonne notre présent. Merci donc d'avoir partagé ce morceau d'histoire. Qui vit, vous l'avez entendu dans le cœur et les esprits de nos invités. Surtout, merci d'avoir été des nôtres. Gardez un œil dans le rétroviseur, voilà, avec un regard tourné vers l'horizon quand même. Chaque jour est une page qui s'écrit, dont vous êtes les auteurs de cette histoire qui continue. Voilà, je suis Pierrick. Ce fut un bonheur de partager avec vous cette heure. Rendez-vous au prochain épisode de Mémoire vive. D'ici là, que vos jours à venir soient aussi riches en histoire que ceux que nous venons de revivre. Bonne continuation et à bientôt sur Radio 162.